On reçoit Yvon Dallaire, qui est psychologue et auteur connu, qui a publié plus tôt cette année « Conflits et disputes dans le couple, comment les gérer ?» Alors, ça existe-tu des couples qui n'ont pas de disputes?
Généralement, les couples qui n'ont pas de disputes n'ont pas non plus de vie sexuelle. Aussi peu. C'est les statistiques que nous possédons. Même si actuellement vous êtes dans une phase harmonieuse de votre couple, Madame Durocher, il est fort possible qu'un jour ou l'autre, vous soyez confronté à l'une des 6 sources de conflits qui, pour la plupart, sont insolubles.
Insolubles, ça veut dire que même si on y met toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas régler ces conflits-là.
C'est ça. Et même si on utilise des tactiques de communication efficaces ou non violentes, si on a deux points de vue différents, chacun va chercher à convaincre l'autre que j'ai raison de voir les choses de cette façon-là et toi, tu as tort de les voir autrement.
D'accord.
Alors, les 6 sources de conflits, pour la plupart insolubles, c'est l'éducation des enfants.
Ouais, OK.
La gestion du budget.
OK.
Les relations avec les belles familles.
Okay.
Le partage des tâches ménagères.
Okay.
La séparation à faire entre la vie professionnelle et la vie privée. Et évidemment, la sexualité.
D'accord.
La solution serait que pour tous ces aspects-là, on ait sensiblement la même attitude. Parce que plus on est semblable, moins les sources de conflits insolubles vont être polarisées. Plus on est dissemblable, plus on est à l'opposé sur chacune de ces sources de conflits inévitables, plus on risque à ce moment-là de se confronter et d'arriver malheureusement à des drames familiaux.
Donc, ça veut dire que quand il y a des gens qui divorcent ou se séparent, c'est forcément relié à une de ces 6 sources de friction.
Généralement, oui. Il peut y avoir des relations toxiques où il y a de la violence physique, de la violence sexuelle, etc. Mais on parle pas de ça. Là, on parle des couples soi-disant normaux, c'est-à-dire nous tous.
Ouais.
Et quand un couple arrive en thérapie dans mon bureau, ils viennent pas voir un psychologue, ils viennent voir un juge. Dites-lui, Monsieur Dallaire, que j'ai raison de voir
des
enfants comme ça, la gestion de l'argent comme ça, et que lui a tort de vouloir faire ça autrement. Alors,
c'est
le jeu préféré des couples malheureux qui finissent par s'endurer pendant des décennies ou par divorcer et recommencer ailleurs exactement la même chose. Tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas que le couple n'est pas fait pour rendre heureux, contrairement à la croyance populaire, mais que c'est un creuset pour générer des crises et que le critère pronostique de l'évolution d'un couple, ce n'est pas comment ils sont en temps de paix, en temps de bonheur, mais comment ils vont passer à travers des moments difficiles, comment ils vont gérer des problèmes insolubles en négociant des ententes à double gagnant.
C'est quand ça va mal qu'on voit si un couple est fait pour être ensemble. C'est pas quand
exactement.
Ça va bien.
Exactement. Le couple commence à exister à partir du moment où il y a une crise qu'on réussit à transcender, à dépasser pour pouvoir négocier une entente à double gagnant, pour arriver à partager le pouvoir, quoi.
Dans votre livre dont on parle aujourd'hui, ce sont des façons de dénouer ces conflits-là. Mais vous nous dites en même temps qu'il y en a certains qui sont pas dénouables de toute façon. Ouais. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout. Prenons un exemple très simple.
Oui.
Disons que moi, je suis en très grande sécurité financière, alors que vous êtes en très grande insécurité financière. Ça donne rien de s'obstiner à savoir lequel de nous deux a raison. Chacun va avoir des arguments très valables pour dire, bah, écoute, il faudrait mettre de l'argent de côté pour assurer nos vieux jours. Mais l'autre va arriver en disant, mais qui te dit que tu vas être encore vivante à 60 ans? Ça mène nulle part. Alors, l'entente à double gagnant, c'est de faire un budget dans lequel il va y avoir un compte d'épargne pour rassurer l'insécure et un compte loisir, un compte folie pour pouvoir justement profiter de son argent maintenant. C'est beaucoup plus facile quand on le sait. Mais quand on croit que j'ai raison et que l'autre a tort, c'est là où parfois on va même engager des avocats et un juge va devoir un jour trancher, puis il va faire un jugement et un des deux va se sentir lésé. Comme ça se passe dans la majorité des cas, malheureusement, lorsque ça tourne mal.
D'accord. Donc, c'est pas si important que ça d'avoir raison, finalement.
Dans un couple, Sophie, on a toujours le choix entre avoir raison ou être heureux. Et on a aussi toujours le choix entre discuter de ce qui va pas plutôt que de regarder qu'est-ce qui va et construire sur ce qui va bien. Pour le dire d'une façon triviale, on a toujours le choix entre brasser de la merde ou brasser des fleurs.
Oh! Quand des termes élégants, ces choses sont dites!
Le bonheur, c'est une question d'odeur.
Ben, moi, je pense que le bonheur, comme dit ma belle-mère, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais.
Mm-hmm.
Alors, t'as le choix quand tu te lèves le matin. Est-ce que je vais picosser mon chum parce qu'il a pas ramassé ses chaussettes ou je vais féliciter mon chum parce que il a fait un sacré bon souper hier soir?
Exactement.
On a le choix.
On a le choix. Entre regarder ce qui va pas, regarder les faiblesses de l'autre ou les défauts de l'autre plutôt que de regarder les forces de l'autre et construire sur les forces. On ne construit rien sur le négatif. dans tous les couples, il y a ce qu'on appelle les quatre cavaliers d'Apocalypse qui sont toujours en train de frapper à la porte et qu'ils veulent entrer et s'interposer entre les deux partenaires.
Allez-y rapidement, juste en les nommant les quatre.
Oui. Critique, qui amène nécessairement le deuxième cavalier qui est la défensive. Et la meilleure défensive, c'est la contre-attaque. Donc, tu me critiques, je te critique à mon tour. Quand on se critique comme ça, ce n'est pas avec les yeux remplis d'amour et le sourire aux lèvres, c'est plutôt avec du mépris dans le regard, dans l'attitude. Et finalement, le quatrième cavalier d'Apocalypse, c'est la dérobade, que les hommes surtout utilisent dans 80-85% des cas, croyant qu'ils peuvent acheter la paix par le silence, ce qui, à mon avis, est la pire des violences psychologiques qu'un homme puisse faire à une femme.
C'est boudé, c'est quand il y a
boudé. Oui, c'est boudé, c'est ça.
Ah, ok, d'accord.
Oui, il sort tout simplement de la pièce. Cause toujours mon lapin, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Quand une femme sent ça de son partenaire, elle, son taux de stress augmente et elle critique de plus en plus. Voyez-vous comment les quatre cavaliers s'entretiennent les uns des autres.
Donc, critique, défensive, contre-attaque, dérobade.
Non, critique défensive, mépris et dérobade.
Mépris et dérobade, ok, excusez-moi.
Parce que la manière défensive, c'est la contre-attaque. En fait, quand on regarde et qu'on fait des statistiques sur des grands nombres, on évalue à peu près à 20% le nombre de couples heureux la plupart du temps, parce que même les couples heureux vont arriver parfois à vivre des moments difficiles ou à avoir des confrontations qui ne tournent pas en affrontement dans une lutte à finir. Alors, il reste, on sait très bien aujourd'hui que 50% des premiers couples finissent par divorcer. Et qu'à peu près 30% se résignent et s'endurent pendant des décennies.
Le meilleur conseil, le premier que vous pourriez nous donner pour que le mariage finisse pas en divorce, ce serait quoi?
J'ai cherché longtemps un symbole pour illustrer le couple et j'ai trouvé. Dans mon bureau, j'ai un outil thérapeutique qui s'appelle un damier, sur lequel d'un côté, j'ai mis les pièces d'un jeu de dames. Et en face, les pièces de jeu d'échecs. Pour illustrer, c'est quoi un couple? Alors, le secret, c'est que chacun, sans renier son expertise dans le jeu de dames ou dans le jeu d'échecs, apprenne les règlements du jeu de l'autre. Sans renier, moi, mon expertise dans le jeu de dames, par exemple, j'apprends à jouer aux échecs. C'est deux jeux intéressants à jouer dans le même territoire, qui est le damier, qui représente le couple. Et les couples russes, vous savez qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, Sophie?
Quoi?
Ils ont, à partir des règlements de chacun des jeux, inventé un troisième jeu que moi j'appelle une culture conjugale.
On vit aussi dans une société où on veut beaucoup que les hommes soient comme des femmes. Et on veut beaucoup que les femmes soient comme des hommes et on ne reconnaît pas justement les particularités et les différences.
Quand une femme donne un conseil non sollicité à son homme, monsieur reçoit ça comme une critique. Premier cavalier d'Apocalypse, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le défendre.
Contre-attaque.
Contre-attaquer. Donc, on est mal parti. J'ai l'occasion d'aller beaucoup en Europe, là, et je me rends compte que les sources de conflits, que les façons de faire des femmes et des hommes sont identiques des deux côtés de l'Atlantique, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être heureux en couple, ça prend quatre éléments essentiels. Beaucoup d'amour et beaucoup de bonne foi. Moi, ça fait presque 40 ans que j'entends des couples dans mon bureau, des milliers de couples sont venus me voir, et j'ai entendu sensiblement les mêmes histoires, c'est ce que j'appelle variation sur un même thème, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il manque les deux autres éléments, qui est la connaissance ou la reconnaissance des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes, et elles sont minimes, elles sont lourdes de conséquences. Donc, il faut les accepter. Qu'on soit égaux en droit, etc., j'en suis, puis je vais continuer de me battre pour que les hommes et les femmes aient les mêmes avantages, les mêmes chances et les mêmes salaires, etc. Mais on est quelque peu différents, et la négation de cette différence-là, ou le fait de vouloir imposer à l'autre ma différence, c'est ça qui provoque beaucoup de conséquences. Et dans l'ignorance des petites différences, pour ajouter aussi l'ignorance des dynamiques inhérentes à la vie à deux, et personne suit des cours pour vivre à deux. Et les cours de préparation au mariage qu'on donnait dans le temps, c'était basé sur la foi et sur l'amour, la bonne foi. Et si on communique, on va pouvoir régler tous nos problèmes. Or, si la majorité des problèmes sont insolubles, même si on utilise de bonnes techniques de communication, on n'arrivera pas à une solution. D'où dans le titre de mon livre, comment les gérer, pas comment les solutionner. Il faut faire
comment
la gestion de problèmes insolubles. Et le quatrième élément qui manque, c'est des efforts pour continuer de mettre en pratique ce qui fonctionne bien et faire des efforts pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas, comme l'exemple que vous donniez tout à l'heure, la femme qui donne un conseil non sollicité à son homme, ça ne marche pas, ça. Et monsieur qui croit qu'il peut acheter la paix par le silence, pour donner un exemple équivalent.
D'accord. Mais je retiens quand même que l'élément que vous avez dit qui est le plus important, c'est de l'amour. Il y a plein de gens qui oublient ça.
Mais pense que si tu m'aimes vraiment, tu vas me comprendre et tu vas être d'accord avec moi. Alors, l'amour, c'est accepter l'autre exactement tel qu'il est.
Mais c'est tellement important. Pouvez-vous le répéter encore une fois, s'il vous plaît?
Aimer quelqu'un, c'est le laisser libre d'être ce qu'il est et de pouvoir davantage profiter justement de ces petites différences qui peuvent enrichir un couple. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes auprès de couples heureux, là, à long terme, là, je parle de 50, 60 ans, puis il y en a de plus en plus de couples qui peuvent vivre aussi longtemps que ça, quand on leur demande c'est quoi le secret de votre amour, c'est sensiblement toujours la même réponse qu'on obtient, c'est j'ai toujours accepté mon partenaire tel qu'il est. Je n'ai jamais cherché à le changer.
Des fois, quand je regarde des couples qui se chicanent, je me dis, ces gens-là ont oublié pour quelles raisons ils sont tombés amoureux de l'autre.
Quand je vois un couple comme ça qui chicane dans mon bureau, je leur demande, c'est quoi le contrat de l'amour? Et la majorité me répondent, c'est la haine, c'est la colère. Je dis non. Tant et aussi longtemps que vous êtes en colère contre votre partenaire, c'est bon signe. C'est que vous avez un besoin d'aimer et d'être aimé qui n'est pas satisfait comme vous le voudriez. Le contraire de l'amour, c'est pas la colère, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. À partir du moment où, par exemple, vous arrivez en retard et que ça crée aucune réaction de la part de votre partenaire et que vous arrivez en retard de plus en plus souvent et qu'il n'y a pas de réaction, tu sais, je peux gager que l'autre est en train de préparer son divorce.
Ah oui?
Oui.
C'est clair comme ça.
Sauf que la réaction, au lieu de dire « t'es encore en retard », idéalement, c'est « j'avais assez hâte que tu arrives, mon amour. »
Ah! Oh. Oh, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mon chum. Bon. J'ai assez hâte que tu arrives. Je vous le dis, j'ai marié le meilleur gars au Québec. Ben, désolée, les filles, mais c'est fait.
Bon, les meilleurs sont pris, mais généralement, ben, ils restent ensemble. Et un homme heureux fait que ça augmente les probabilités qu'elle soit heureuse. Et si elle-même elle est heureuse seule, parce que le bonheur se trouve seul et se partage, il faut arrêter de croire que l'autre va me rendre heureux. L'autre ne peut pas faire pour moi ce que moi-même je ne fais pas pour moi. Alors, si je suis seul et heureux, c'est beaucoup plus facile d'être en couple et heureux.
Oui. Ben, on revient à l'affaire du sucre à la crème, hein. C'est pas compliqué.
Oui.
Si on veut du sucre à la crème, on s'en fait. Le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand on veut, tu t'en fais. Donc, si t'es pas capable par toi-même d'être heureux et de créer ton propre bonheur, ben, comment peux-tu demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place?
Si je veux obtenir de l'amour, j'offre de l'amour.
Voilà. Puis, on arrête de picosser les gars en leur disant que, mon Dieu, t'as pas sorti les poubelles. Ah, mon Dieu, la lave-vaisselle, tu l'as pas rempli comme du monde. Moi, c'est comme ça que je l'aurais rempli.
Et voilà.
Alors, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir.